Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue dans cet espace de discussion réservé à la santé au féminin. Elles durent en moyenne 39 ans et surviennent environ 500 fois dans la vie d'une femme. Leur arrêt définitif signe le début de la ménopause. Il s'agit des règles, bien évidemment. Regardons ce mot de plus près, la ménopause. Il est formé du préfixe grec « méno » qui veut dire « menstrue » ou « règle » et du suffixe « pause » qu'on peut traduire par « cessation » ou « fin ». C'est donc un adieu à ces visiteuses mensuelles dont le rôle était d'évacuer le surplus d'endomètre, la muqueuse utérine, quand l'ovule n'a pas été fécondé. Phénomène naturel, il s'accompagne potentiellement de désagréments plus ou moins importants, parmi lesquels bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a des points positifs? Outre l'allègement de la charge financière, jusqu'à 2000 euros au cours de la vie d'une femme, elle occasionne la disparition par exemple des migraines cataméniales liées au cycle menstruel. À ménopause, on en parle dans Question de femmes. Et pour répondre à vos questions de femmes et nous éclairer sur notre sujet du jour, la ménopause, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal, une participation en duplex assurée par les équipes techniques des studios RFI à Dakar. Bonjour docteur Diop.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Questions de femmes. Quelle est peut-être l'idée reçue la plus répandue sur la ménopause qu'il serait bon d'entrée de jeu de balayer?
Oui, l'idée la plus reçue ou la plus partagée et qui est négative par rapport à la ménopause, c'est de penser que la ménopause est une fatalité et que c'est un peu le ciel qui tombe sur la tête de la femme. Non, pas du tout. La ménopause est un phénomène naturel. De la même manière qu'il y a la puberté, qu'à un âge de la vie, la patiente ou la femme commence à avoir ses règles, à un autre moment de la vie aussi, elle va arrêter de voir ses règles. Et c'est un phénomène tout à fait naturel qui peut, certes, on y reviendra, comporter des désagréments, des passages un peu difficiles, des signes un peu compliqués à gérer. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel et que l'on peut gérer et on peut avoir une ménopause en toute tranquillité.
Vos questions nombreuses de femmes arrivent bien sûr sur notre antenne. Petit tour d'horizon, Fama et Nafi de Dakar prendront part à cette émission grâce à des notes vocales qu'elles nous ont laissées. Aïssata Nouakchott sera aussi parmi nous. Elle nous a contacté pour sa mère, non pas pour elle, mais pour sa mère, pas très en forme depuis un moment. Et elle se demande si ce ne serait pas à cause de la ménopause. Le docteur Diop lui répondra. Beaucoup d'autres préoccupations d'auditrices, notamment Tony également à Dakar, avec qui on abordera la ménopause précoce. Docteur Diop, en préambule, j'ai souligné le poids financier que peuvent représenter les protections hygiéniques pour les femmes. Faisons juste un pas de côté avant d'aborder le sujet de la ménopause. Toutes les femmes n'ont pas accès à ces protections. On estime qu'elles sont environ 500 millions de femmes dans le monde à être touchées par ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Vous vous trouvez au Sénégal, vous avez certainement des conseils à donner aux Sénégalaises qui se retrouvent dans cette situation. À quelle porte frapper ?
Oui, cette précarité menstruelle est un phénomène qui touche le monde entier.
Ah oui.
Il y a beaucoup de femmes à travers le monde qui ont des difficultés à gérer les règles, à gérer le flux des règles, notamment par les différents outils qu'elles peuvent utiliser pour recueillir un peu le sang des règles, que ce soit avec les serviettes hygiéniques jetables, qui, au-delà de leur coût, comme vous l'avez souligné un peu, comportent aussi un risque écologique lié à leur dissémination dans la nature après l'utilisation. Il existe d'autres types de protection hygiénique aussi, plus ou moins chères, plus ou moins disponibles selon les femmes. Et même, il y a des femmes qui n'ont carrément aucun moyen de recueillir le sang des règles, sans compter l'absentéisme scolaire ou professionnel lié à la gestion du flux et des douleurs liées aux règles.
Pour les jeunes filles,
pour les jeunes filles, exactement, c'est une vraie problématique.
On pense on estime en tout cas que 100 millions de jeunes filles manqueraient à l'école au moins une semaine par mois à cause de cette précarité menstruelle. Vous faites bien de souligner ce point. Où les femmes peuvent-elles se diriger vers qui lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation?
Il existe de plus en plus des initiatives, en tout cas dans notre pays, il existe des initiatives, des organisations non gouvernementales, des acteurs de la société civile qui essaient de faire la promotion de l'accès à des moindres coûts de ces serviettes hygiéniques, soit des serviettes hygiéniques jetables, soit des serviettes hygiéniques réutilisables, que ce soit les autres moyens comme la coupe menstruelle. Donc il y a beaucoup d'initiatives et même il y a un mouvement qui voudrait, j'espère que ça va aboutir, que rendre gratuite en tout cas, l'obtention de ces serviettes hygiéniques au niveau de certains milieux scolaires ou universitaires.
Parlons maintenant ménopause à la rentrée prochaine du côté du Royaume-Uni. La ménopause sera au programme des sciences de la vie dans les écoles. L'idée, c'est de ne plus en faire un moment de honte, tabou, ou même de l'inscrire dans les phénomènes naturels dont vous avez parlé finalement. C'en est un phénomène naturel. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement au moment de la ménopause ?
La ménopause correspond simplement à l'épuisement du fonctionnement des ovaires, en tout cas de la sécrétion et des ovules, les œufs, si j'ose dire, qui sont à l'intérieur des ovaires de la femme et qu'elle utilise tout au long de sa vie à partir de la puberté pour pouvoir avoir des enfants. Eh bien, c'est ce potentiel qu'elle a une limite et à un moment, ces follicules vont se terminer et il y a l'ovaire qui ne va plus fonctionner, en tout cas comme il devrait. Et donc, c'est l'épuisement de ce potentiel ovarien avec l'arrêt des règles et les perturbations hormonales liées justement à cet épuisement qui correspond à la ménopause.
La ménopause est précédée, est amenée par la préménopause ou périménopause. Il y a cette phase de transition. Combien de temps avant la ménopause elle peut débuter, cette préménopause ?
Vous avez bien fait de souligner cela. La ménopause en elle-même ne pose pas de problème. Être en ménopause, ça signifie, après l'âge de 40 ans, rester 12 mois sans voir ses règles. Là, on peut dire qu'on est en ménopause. Donc, la ménopause, le diagnostic de la ménopause se fait de manière rétrospective. La période qui pose problème, c'est justement cette période de préménopause ou cette période de périménopause qui est la période qui survient avant la ménopause. Elle dure en moyenne 12 mois à 24 mois. Et c'est durant cette période où il y a vraiment beaucoup de symptômes qui sont très dérangeants pour la femme, tels que les bouffées de chaleur, qui est le phénomène le plus connu de la préménopause, la sécheresse vaginale, l'irritabilité, les migraines et beaucoup d'autres symptômes qui sont liés justement à des perturbations, à la diminution de la sécrétion des hormones ovariennes.
Les fluctuations hormonales.
Exactement.
On va écouter une question qui vous est maintenant posée par Fama au Sénégal.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Je suis Fama, je suis sénégalaise et j'ai 30 ans. J'aimerais poser deux questions sur la ménopause. La première question, à quel âge commence la ménopause? Et la deuxième question, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants et ces règles signifient automatiquement qu'on a atteint le stade de la ménopause? Merci.
Merci à vous, Fama. Docteur Diop, deux questions là, vous sont posées. À quel âge commence la ménopause? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants signifie, d'ailleurs elle a rectifié, est-ce que le fait de ne pas avoir de règles signifie automatiquement qu'on est ménopausé? Vous l'avez dit, lorsque consécutivement 12 mois s'écoulent sans voir les règles arriver, eh bien on peut considérer qu'on est ménopausé. Mais à quel âge commence la ménopause?
Oui, la ménopause survient aux alentours de 45 ans en moyenne, avec des variabilités selon les femmes. De la même manière qu'il y a des femmes qui vont voir leurs règles très tôt, qui vont avoir leur puberté vers 12 ans, 10 ans, 16 ans, 17 ans, la ménopause aussi survient de manière assez variable. 40 ans, 45 ans, 50 ans, il y en a même qui vont au-delà. Mais l'âge moyen reconnu comme étant l'âge de survenue de la ménopause pour le plus grand nombre de femmes, c'est aux alentours de 45 ans. Si on a sa ménopause avant 40 ans, on parlera de ménopause précoce.
Et on va y revenir. Bien sûr.
Et si on a sa ménopause après 50 ans, ensuite on parlera de ménopause tardive. Mais l'âge à retenir, c'est 45 ans.
Cette question, elle préoccupe beaucoup de femmes. C'est aussi une question qui a été posée via Facebook par Khadidia en Mauritanie ou par Annette en RDC. L'âge de la ménopause préoccupe beaucoup nos auditrices. Pourquoi, selon vous ?
Oui, parce que si malheureusement on n'a pas eu suffisamment d'enfants, en tout cas on n'a pas eu le nombre d'enfants qu'on voudrait avoir jusqu'à cet âge de 45 ans, il y a ce spectre-là justement de ne plus pouvoir en avoir. Parce que pour répondre de manière anticipée à la deuxième question de Fama, lorsqu'on arrive en ménopause, on ne voit effectivement plus ses règles et donc on ne peut plus avoir d'enfants. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'enfants qui signe la ménopause, mais c'est le fait d'avoir la ménopause qui signe qu'on ne peut plus avoir d'enfants lorsque cette ménopause est confirmée.
La ménopause au cœur des questions de femmes. Je vous propose de poursuivre avec la palabre au féminin cette semaine. Deux auditrices se sont confiées au micro de Raphaël Constant. Il s'agit de Mira, 58 ans, ménopausée depuis 13 ans. Et Ranès, qui a 39 ans, qui souffre d'endométriose, une maladie gynécologique que vous connaissez bien, docteur Diop. Ranès n'est pas encore ménopausée, mais elle est pleine d'interrogations, discussions ouvertes et finalement sans tabou entre femmes sur la ménopause et sur ses symptômes.
Ça a commencé en 2006. J'avais des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Je dormais très, très, très mal. Même la journée, j'avais des sueurs. Souvent, j'avais mal à la tête. J'étais énervée, j'étais pas bien. Mes règles, ça coupait un peu, ça venait. Des fois, je voyais, des fois, je restais 3 mois sans les voir. Mais vraiment, ménopausée, c'était en 2009 et j'ai beaucoup souffert. J'étais partie en vacances en même temps, en 2009, au Sénégal. Et là, c'était encore plus dur. Avec la chaleur, j'avais tout le temps mouchoir avec moi, tout le temps. Et je me lavais tout le temps, j'étais dans la douche, tellement j'avais chaud. Ça m'a vraiment traumatisée. Et chaque fois que je vois une femme qui a un éventail, par exemple, nous, on a beaucoup d'éventails chez nous, ou qui s'approche du ventilo, ou des fois, qu'est-ce qu'on faisait? On ouvrait la porte du balcon, on se mettrait là-bas pour prendre un bouffet d'air frais. J'ai eu peur, je me disais, si c'est comme ça, la ménopause, vraiment, c'est dur.
En ce moment, avec les problèmes d'endométriose, j'observe, je suis très attentive en ce qui concerne mon cycle hormonal. J'ai des variations de poids tout au long d'un mois, ça se voit. Bon, comme j'avoisine la quarantaine, parfois je me pose des questions. Est-ce que le fait que c'est pratiquement 5 dernières années, je vois une différence en ce qui concerne mes menstrues? Est-ce que c'est le fait que j'avoisine, déjà, je suis dans la période de pré-ménopause, parce que je me souviens bien, j'avais, je crois, 13 ans, et j'étais très curieuse un jour à écouter ma mère et sa sœur, et elle parlait de pré-ménopause, donc du coup, cette idée me hante depuis un bon bout. Donc Mira, justement, quand tu parles que tu as commencé à ressentir des bouffées de chaleur, est-ce qu'au niveau, par exemple, de ton alimentation, il y avait des changements au niveau de tes menstrues, c'est-à-dire la corpulence, tout ce qui est morphologie physique? Est-ce que tu avais vu des différences par rapport à quand tu avais entre 40 et 45 ans, par là?
Oui, j'ai commencé à changer le poids. J'ai pris du poids, oui. Je ne mangeais pas beaucoup, par contre. Mais je buvais beaucoup d'eau. Je buvais beaucoup. J'ai eu un problème aussi, c'est les pertes de cheveux. Ça, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que avant la préménopause, tu as eu, Mira, à souffrir des maux de femme, comme par exemple ces maladies inflammatoires, comme les fibromes? J'en souffre en ce moment et moi, je n'ai pas encore d'enfant. Je me demande, est-ce que ces maux de femme-là ne vont pas favoriser une préménopause? Parce qu'en ce moment, je m'inquiète, je me dis, ma morphologie a changé en l'espace de 5 ans. Est-ce que je ne suis pas dans une phase de préménopause?
Non, moi, je n'ai jamais eu de problème de fibrome ni d'endométriose. Je n'ai jamais eu ces problèmes-là. Moi, en tout cas, ne vous découragez pas. Voilà, la nature, on ne peut pas comprendre la nature. Moi, j'ai confiance.
J'avais une question, Mira, sur est-ce qu'après la ménopause, on continue toujours à avoir des pertes blanches? Est-ce qu'après la ménopause, il y a encore ces sensations de douleur qui sont liées au cycle hormonal? Est-ce que tu ressens encore ces choses-là?
Pour moi, je me dis, comme je suis une personne aussi qui est beaucoup constipée, je ne sais pas si c'est ça qui me donne des maux de ventre. Et les pertes blanches aussi, non. Non, franchement, je n'ai pas ces problèmes-là.
Je ne sais pas si je vais poser cette question. Est-ce que, justement, la ménopause influe sur les rapports sexuels?
Oui. Des fois, on n'a vraiment pas envie. Ouais. La ménopause, ce n'est pas une maladie. Nous, les femmes, on est formées comme ça. Arrivé à un certain moment, les règles vont couper. Voilà, ça va être un autre stade, c'est la ménopause. On doit s'y attendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle beaucoup avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Leur expliquer beaucoup de choses. Les médecins sont là, il y a des gynécologues qui sont là pour nous donner aussi des conseils. En tout cas, ne t'inquiète surtout pas qu'on en parle. Surtout pas de tabou.
Bel échange intergénérationnel. Merci à Mira et Ranès de s'être confiés au micro de Raphaël Constant. Mira vient de dire, les médecins sont là pour nous conseiller, nous amener, nous apporter des conseils. Justement, le docteur Diop est avec nous. Beaucoup de questions sur un sujet qui préoccupe les femmes, la ménopause. Et si on reprend, docteur Diop, si vous le voulez bien, les principales questions abordées dans cette palabre au féminin, si on décortiquait quelque part cette palabre, notamment Ranès qui souffre d'endométriose, comment s'organise, disons, la cohabitation entre l'endométriose et la ménopause?
La ménopause est plutôt une bonne nouvelle pour l'endométriose.
Hein. Oui.
Oui, parce que alors, les femmes qui souffrent d'endométriose, elles sont délivrées par la ménopause. Arrivées à la ménopause, l'endométriose disparaît. Parce que les mécanismes de survenue de l'endométriose sont intimement liés au cycle menstruel. Et donc, à la ménopause, il n'y a plus de cycle menstruel. Et donc, la plupart des lésions ou bien des douleurs liées à l'endométriose vont disparaître. Donc, on peut dire que la ménopause va signer la fin de l'endométriose, sauf dans certaines situations où il y a d'autres lésions extra-digestives et extra-gynécologiques qui vont peut-être continuer à poser des problèmes.
Il y a aussi ce qu'on appelle l'endométriose dans de très rares cas post-ménopausique qui peut apparaître plusieurs années après l'arrêt des règles.
Oui, l'endométriose peut être gynécologique, comme je viens de le dire tantôt, mais aussi on peut retrouver des lésions endométriosiques en dehors de l'utérus, en dehors de la sphère gynécologique, que ce soit au niveau des reins, que ce soit au niveau du système digestif, etc. Et ces lésions-là, après la ménopause, peuvent persévérer. Ou peut-être qu'elles étaient masquées par quelque chose et elles vont commencer à donner des symptômes après la ménopause. Et donc, c'est des cas rares où on continue à avoir de l'endométriose, mais après la ménopause, mais c'est plutôt rare.
Autre point dont Mira a discuté avec Ranès dans cette palabre de femme, c'est la perte des cheveux. Est-ce qu'elle est symptomatique de la ménopause ?
C'est variable. Ce n'est pas le premier symptôme que l'on évoquerait au niveau de la préménopause, mais oui, avec la chute des hormones telles que les hormones telles que les œstrogènes. Or, on sait que les œstrogènes ont un effet dans la poussée des cheveux. Beaucoup de femmes qui, pendant la grossesse, avec cette poussée hormonale liée à la grossesse, vont avoir une augmentation des fanères, des cheveux, des ongles et autres, même si chez d'autres, ce sera le contraire. Mm-hmm. Oui, certaines femmes vont avoir à la ménopause une sécheresse au niveau de la peau, elles vont avoir les ongles qui vont commencer à se casser et les cheveux qui vont tomber. Oui, c'est un symptôme qui peut être lié à la ménopause, même si ce n'est pas le premier symptôme.
Mais on peut proposer des solutions.
Oui, il existe des solutions.
Sur ce problème particulier.
Sur ce problème particulier, comme sur les autres problèmes, les autres signes de la ménopause, il y a toujours des solutions. Il y a toujours nos collègues dermatologues qui vont proposer des solutions pour la chute des cheveux. Il y a des traitements intéressants. Il y a des traitements à base d'oligo-éléments. Il y a vraiment beaucoup de traitements qui peuvent aider à pallier à ces symptômes qui sont très dérangeants pour la femme.
Ranès pose aussi cette question. Est-ce que les fibromes utérins peuvent favoriser la survenue de la ménopause ?
Non, les fibromes utérins ne favorisent pas la ménopause. Au contraire, tout comme l'endométriose, lorsqu'on a des fibromes utérins, à l'apparition de la ménopause, les fibromes vont arrêter de grandir. En tout cas, ils vont arrêter de donner des symptômes, arrêter de saigner, arrêter de donner des douleurs. Et il y en a même une bonne partie qui vont régresser. Donc aussi, la ménopause est une entre guillemets bonne nouvelle pour les patients souffrant de fibromes. Quand on a des fibromes, à la ménopause, la plupart des fibromes vont commencer à disparaître ou en tout cas diminuer de taille et ne plus donner de symptômes.
Sur les changements occasionnés par la ménopause, Ranès parle de changements de corpulence. Et on l'entend demander, est-ce que toi aussi tu as connu ces changements-là ?
Oui, ça c'est la fameuse prise de poids liée à la ménopause et que les femmes détestent d'ailleurs. Après la ménopause, ou en tout cas dès que la ménopause approche, en moyenne, les femmes vont prendre entre 1 et 2 kilos par an. Ce qui peut vraiment poser problème lié à une rétention d'eau, notamment les hormones, lié à l'augmentation peut-être certaines habitudes alimentaires que les femmes adoptent après la ménopause et qui malheureusement n'est pas bonne. Et qui fait que oui, après la ménopause, les femmes vont commencer à prendre du poids et ce poids-là les dérange beaucoup.
Et enfin, pourquoi les rapports sexuels peuvent se retrouver, disons, moins confortables ?
Cet inconfort lié au rapport sexuel est dû à la sécheresse vaginale. Les sécrétions hormonales responsables de cette sécheresse vaginale ayant fortement diminué, la femme va se retrouver à une certaine sécheresse au moment des rapports sexuels. Non seulement elle va avoir une baisse drastique de son niveau de libido, donc l'envie sexuelle va diminuer, voire même disparaître entre guillemets, mais elle aura lors des rapports sexuels une certaine sécheresse vaginale qui peut être à l'origine de douleurs, appelées les dyspareunies, sont les douleurs lors des rapports sexuels, et au finish, elle n'aura plus envie d'avoir des rapports sexuels. Tout ça lié justement à la baisse des œstrogènes et des autres hormones féminines.
Mais vous l'avez dit, rapprochez-vous, mesdames, de votre médecin. Il y a des solutions, il y a des propositions. Ne restez pas isolés avec ces problèmes-là, ces difficultés-là.
Oui, tous ces symptômes peuvent être pris en charge. Hein. Dans le dialogue qu'on a écouté tout à l'heure, elle a dit un peu à la fin, la ménopause n'est pas une fatalité, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et il y a des solutions, que ce soit pour la sécheresse vaginale, que ce soit pour les bouffées de chaleur, que ce soit pour l'irritabilité, que ce soit pour les maux de tête, que ce soit pour la prise de poids, la chute de cheveux, etc. Avant, on avait un peu peur de ces traitements qu'on appelle les traitements hormonosubstitutifs, parce qu'il y avait un risque lié à... aussi comme effet secondaire, l'augmentation du risque d'avoir un cancer gynécologique. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui, complètement.
Mais de plus en plus, on a beaucoup de traitements inoffensifs et beaucoup de traitements qui améliorent la qualité de la vie de la femme, notamment la qualité de sa vie sexuelle.
Et comme vous l'avez dit, on va les aborder. abordés. Nous écoutons et nous répondons à vos questions de femmes à propos de la ménopause. Bonjour Andy, depuis Antananarivo.
Bonjour Catherine Guillaume et bonjour Dr Thion. Je vais vous parler du cas de ma mère quand j'avais 10 ans, elle en avait 45. Ses règles ont cessé pendant 8 mois, puis après une journée comme ça au marché, il fut un jour où il y a eu un écoulement très soudain, où les sangs étaient très abondants. C'était très abondant et très beau quand même que ça a fini par couler sur toute sa jupe. Ça lui a causé un traumatisme, un vertige. Puis comme à l'époque, on n'était pas des gens qui ne sont pas pour l'aider à les consulter, mais plein d'un cas, elle a opté pour une automédication. Donc, elle a choisi juste de boire du vin. Et heureusement que mon papa était là et elle a dit qu'il faut que tu m'achètes du vin. Et il était parti pour lui en acheter. Elle a bu à peu près 2 verres et elle a dit que ça a soulagé, que ça a marché. Les saignements n'ont pas duré quelques jours, mais c'était juste en quelques minutes. Et ma question est donc, est-ce que son cas pourra arriver à l'une de nous trois qui sommes sa fille? Et la deuxième question, qu'est-ce qui était arrivé à ma mère à cette époque? Et il y a plus, elle n'avait pas eu ses règles depuis, c'était son dernier saignement.
Merci Andy.
Et ça m'intrigue. Merci.
On va tâcher de vous orienter. Docteur Diop.
Elle raconte une scène qui est caractéristique justement de la pré-ménopause. Donc parce que sa maman, d'après ce que j'ai compris, a eu une interruption des règles pendant 8 mois. Après, il y a eu cet épisode de saignement, ce gros épisode de saignement qui les a un peu inquiétés, à juste titre. Mais 8 mois, comme on a dit, ce n'est pas suffisant pour parler de ménopause. On parle de ménopause après 12 mois sans règles. Mais durant la préménopause, on peut avoir des arrêts des règles pendant quelques mois, sans atteindre 12. Bon, les règles peuvent s'arrêter pendant 3 mois, revenir pendant 1 mois, s'arrêter encore pendant 6 mois, revenir 1 mois ou 2, ensuite avant de s'arrêter définitivement. Donc quand sa maman avait eu cet épisode de saignement, je pense qu'elle était en préménopause, oui, et elle a eu un saignement qui n'est pas obligatoirement lié à la ménopause. Certes, probablement que ses règles sont venues de manière très inopinée et l'ont surprise un peu dans son lieu de travail. Elle a dû saigner comme d'habitude ou un peu plus que d'habitude. Et oui, elle était en préménopause. Oui, elle n'était pas en ménopause, mais elle était en préménopause. Et la preuve, après ce saignement, d'après ce que j'ai compris, elle n'a plus eu de saignement. Et c'était son dernier saignement, même s'il était abondant. Ce qui me fait un peu sourire, c'est peut-être la prémédication.
Mais quel est le rôle du vin rouge?
Je ne saurais vous le dire. Je ne pense pas, je ne sais pas si, bon, certaines populations apparentent un peu le sang qui est rouge, les vins qui roulent, et que donc en buvant du vin rouge, peut-être on récupère le sang qu'on a perdu. Bon, c'est une croyance populaire qui est très répandue, mais bon, en tant que médecin,
c'est cette parole-là qu'on vient chercher chez vous.
Voilà, exactement.
Et donc, à proscrire le vin rouge,
c'est proscrire. En tout cas, ce n'est vraiment pas le traitement d'une hémorragie.
Et il y a la dernière partie de ce flot de questions. Est-ce que ça risque de nous arriver, le caractère héréditaire?
Bon, pour le saignement que la maman a eu, non. Ce n'est pas parce que sa maman a eu cet épisode de saignement brusque après, en période de préménopause, qu'obligatoirement que ses filles l'ont. Non. Par contre, Andy sera un jour ménopausée aussi, comme toutes les femmes du monde. Un jour ou l'autre, elle aura sa ménopause qui surviendra de sa manière. Chacun avec sa manière de survenir sa ménopause, avec des perturbations du cycle menstruel, avec l'arrêt définitif des règles à un moment ou à un autre. Ça peut se passer de manière très soft, de manière très calme, comme ça peut se passer aussi avec quelques turbulences.
Voilà Andy.
Merci beaucoup.
Donc vous voilà rassurée, c'était la préménopause et la ménopause qui s'est installée et le moment venu, ce sera votre tour. Voilà. On poursuit avec cette note vocale laissée par Nafi de Dakar.
Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Priorité Santé, bonjour à RFI. Je m'appelle Nafi, j'ai 47 ans, je suis de Dakar. Je voulais poser au docteur la question suivante. Est-ce que c'est normal à 47 ans de se réveiller plusieurs fois la nuit avec des bouffées de chaleur? Est-ce que c'est normal d'avoir cette récurrence-là? Ça fait plus d'un an maintenant. Pas de changement d'hormone extraordinaire, pas de tristesse, ni rien du tout. Juste ces bouffées de chaleur là qui viennent la nuit et ça dure maintenant depuis un peu longtemps pour moi. Je voulais juste rajouter que je ne prends pas la pilule et je ne fais pas trop de suivi gynécologique en fait. Merci beaucoup et passez une très très bonne journée.
Au revoir. Merci à vous, Nafi. Trouble du sommeil, bouffée de chaleur, docteur Diop. L'après-ménopause.
Oui, à 47 ans, oui. Trouble du sommeil, quelques bouffées de chaleur, les règles qui sont un peu irrégulières. Oui, je pense que Nafi est en train de faire sa petite pré-ménopause. Elle n'est pas encore ménopausée, mais elle est sur le chemin de la ménopause quand même. Là, on peut dire de manière assez claire qu'elle est en train de faire sa pré-ménopause.
Elle rajoute à la toute fin, je ne fais pas trop de suivi gynécologique. Là-dessus, peut-être qu'on pourrait lui donner un conseil.
Oui,
aussi.
Je lui conseillerais quand même d'aller voir un gynécologue, d'aller voir son gynéco, de faire au moins un frottis, voir aussi faire un bilan si elle veut ou une échographie pour confirmer justement que c'est une pré-ménopause que survient. Parce qu'il y a la vie après la ménopause. Et malheureusement, il y a beaucoup de pathologies gynécologiques qui vont apparaître après la ménopause. Et il ne faut pas penser que maintenant qu'on est ménopausé, que c'est fini, on n'a plus besoin d'aller voir un gynécologue. Au contraire, il faudrait continuer à avoir un suivi régulier et prévenir justement la survenue de certaines pathologies.
Vous le conseillez à quelle fréquence à minima? Une fois par an?
Une fois par an ou au pire des cas, une fois chaque 2 ans. Et une fois par an serait la bonne fréquence.
Merci. Dans un instant, nous poursuivons notre discussion, docteur Diop, et nos questions de femmes sur la ménopause, avec notamment cette question, qu'est-ce que la ménopause précoce? Souvenir du milieu des années 90, l'artiste Sherlock Gis Gis, titre sélectionné par Nafi qu'on vient d'entendre à l'instant sur notre antenne pour une question de femme. Docteur Diop, vous êtes notre spécialiste, c'est vous qui répondez à nos questions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Dakar et encore merci aux équipes techniques du studio RFI au Sénégal qui assurent ce duplex. On aborde maintenant ce volet, la ménopause précoce. Quand elle survient, à partir de quel âge on peut considérer qu'elle est précoce, docteur Diop?
Oui, on considère que la ménopause est survenue précocement lorsqu'elle survient avant 40 ans. Lorsqu'elle survient avant 40 ans, on parle de ménopause précoce. Et pire que ça, il y a une autre notion de ménopause ultra précoce, c'est lorsqu'elle survient avant l'âge de 30 ans. Donc on a des cas exceptionnels où à 25 ans, 26 ans, la patiente a sa ménopause. Donc on parle de ménopause ultra précoce. Mais la ménopause précoce, c'est lorsqu'elle survient avant 40 ans.
Je pense que Judita va avoir pas mal de questions à vous poser. Bienvenue à vous, Judita.
Bonjour.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad. On vous écoute.
Oui, moi, ma maman a été touchée par la ménopause à l'âge de 40 ans. Et là, je voudrais savoir les causes de cela. Je ne sais pas si moi-même, là, j'ai un peu de peur, en fait. J'ai un peu de peur que je serais aussi tombée à la ménopause à l'âge si c'est inclus. Je cherche à savoir les causes pour pouvoir un peu éviter.
Docteur Diop, sa mère était ménopausée à 40 ans. Est-ce qu'on est là dans la ménopause précoce ou on est sur une limite? On est à la frontière.
On est sur la limite. Ouais. On est à la frontière. 40 ans, on a dit que la ménopause, c'est 45 ans, mais elle peut survenir un peu avant 45 ans, un peu après 45 ans. 40 ans, on est dans la normale. On est quand même un peu dans la normale. On ne parlera pas de ménopause précoce à 40 ans, on en parlera avant 40 ans, donc on est dans cette limite un peu floue à franchir.
Elle demande comment expliquer une ménopause si tôt, c'est ce que vous voulez savoir aussi, Judita. Pourquoi si tôt? Qu'est-ce qui peut l'expliquer?
On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. De la même manière qu'il y a des gens qui vont avoir leur puberté à 15 ans, d'autres à 12 ans, d'autres à 10 ans, la ménopause aussi survient de manière aléatoire, 40 ans, 45 ans, 50 ans ou avant. Il n'y a que le côté ménopause avant 40 ans qui est pathologique. Parfois même, on arrive à trouver les causes de cette ménopause précoce. Mais pour la ménopause qui survient à partir de 40 ans, vers 45 ans, on ne peut pas savoir et on ne peut ni pas le prédire. Elle-même, Judita, on ne peut pas savoir si, parce que sa maman a eu la ménopause à 40 ans, qu'elle l'aura aussi à 40 ans. Il y a certains auteurs qui sont d'accord sur le fait que si votre maman a eu une ménopause à un certain âge, vous risquez d'avoir cette ménopause aux alentours de cet âge, un peu avant, un peu après, mais il n'y a pas de norme définie par la science.
Donc pas de consensus sur l'origine génétique, disons, et une certaine hérédité de l'âge d'apparition de la ménopause.
Dans certaines familles, on a les ménopauses qui surviennent de maman, de mère en fille à peu près au même âge, mais c'est vraiment pas scientifiquement démontré.
Quelle est la différence entre l'insuffisance ovarienne et la ménopause précoce?
La limite, c'est flou. La limite entre l'insuffisance ovarienne et la ménopause précoce est assez floue. Certains auteurs apparents disent que c'est la même chose. Bon, dire insuffisance ovarienne, c'est une manière plus soft ou moins traumatisante de dire à la patiente qu'elle est en ménopause. Et durant cette ménopause, durant l'insuffisance ovarienne, il y a quand même possibilité de toujours tomber enceinte. Il y a quand même quelques traitements qu'on donne. Donc, c'est une frontière qui est assez floue. Certains disent que c'est deux pathologies différentes, mais la plupart des auteurs s'accordent à dire que c'est la même pathologie. L'un, c'est juste pour atténuer un peu l'effet d'annonce.
On a quand même le sentiment que la ménopause n'a pas fini de livrer tous ces mystères, docteur Diop.
Comme toutes les femmes. Les femmes sont pleines de mystères, aussi bien à la puberté qu'à la ménopause. Donc, on a encore beaucoup à apprendre au sujet des femmes.
Judita, vouliez-vous ajouter une question?
Je voudrais aussi savoir un peu si cela n'est pas lié aussi au régime alimentaire.
Le lien entre régime alimentaire et ménopause?
Non, il n'y a pas de lien entre régime alimentaire et ménopause. La ménopause est un phénomène tout à fait naturel et quel que soit le régime alimentaire qu'on peut avoir, on peut avoir sa ménopause précocement, malheureusement parfois, ou tardivement parfois.
Merci Judita.
Merci.
Merci pour votre question de femme. On poursuit avec Tony qui est à Dakar, pas loin de vous, docteur Diop. Elle nous a laissé une note vocale.
Bonsoir, c'est Tony, j'appelle de Dakar. J'ai fait une ménopause précoce à 36 ans et j'aimerais savoir comment gérer cette période assez difficile. Oui, difficile sur le plan de la santé parce que déjà j'ai remarqué que mes os sont devenus très fragiles. Quels sont les traitements à prendre? Et la gérer aussi sur le plan sexuel, il y a la sécheresse vaginale, le manque de libido. Donc, docteur, merci pour vos conseils.
Merci à vous, Tony et docteur Diop. Je voudrais ajouter cette information supplémentaire à propos de Tony. C'est qu'elle a eu une fille un an avant le début de sa ménopause.
Oui, elle a sa ménopause.
Bon, 36 ans, c'est précoce.
C'est précoce, oui. À 36 ans, c'est quand même précoce, la ménopause. La fragilité des os, la sécheresse vaginale, le manque de libido sont des symptômes de la ménopause ou de la préménopause associés. Notamment cette fameuse ostéoporose, la fragilisation des os qui peuvent être à l'origine de fractures pathologiques. Et comme traitement, je lui ai conseillé déjà de se rapprocher de son gynéco, de son médecin, qui va sûrement lui donner une supplémentation en calcium pour fortifier un peu ses os, lui proposer un régime alimentaire adapté à cette ménopause précoce et lui donner des médicaments, soit par voie locale, des ovules ou des pommades pour lutter contre la sécheresse vaginale, ou bien un traitement oral, un traitement hormonal, que ce soit un traitement hormonal substitutif, ou bien un traitement à base de phytothérapie qui peut lui permettre un peu de gérer sa sécheresse vaginale et son manque de libido. Donc il y a quand même des solutions qu'on peut lui proposer pour améliorer sa qualité de vie.
Donc vraiment, Tony, rapprochez-vous de votre médecin et évoquez avec lui toutes ces possibilités. Tony, qui nous a proposé d'écouter, ça va vous intéresser, docteur Diop, tout à l'heure, Ismaël Lo, le titre « Toutes les femmes sont des reines ». Vous le confirmez?
Oui, toutes les femmes sont des reines.
Donc oui, il y a ce lien entre fragilité osseuse et ménopause. Les femmes le redoutent beaucoup. Est-ce qu'il y a certaines précautions à prendre, notamment éviter de pratiquer certains sports, les sports d'impact, faire attention quand on sait qu'on est touché par cette fragilité osseuse?
Oui, il faut éviter certains sports. Plus on avance en âge, et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, plus il y a cette fragilité des os qui peuvent être à l'origine de fractures pathologiques, notamment une chute, ne serait-ce que de sa hauteur, on peut avoir une fracture avec cette fameuse fracture du col du fémur. J'avais failli dire col de l'utérus.
De l'utérus, mais c'est parce que votre spécialité, c'est la gynécologie.
Exactement, exactement. Donc cette fameuse fracture du col du fémur. Donc, lié à cette fragilité des os, donc une supplémentation en calcium, comme je viens de l'évoquer, et parfois en vitamine D, et aussi une alimentation adaptée, riche en calcium, et éviter, comme vous l'avez dit, les sports violents, les sports de contact, faire de l'activité physique régulière, et ça permet. Et il faut aussi améliorer le cadre de vie. Il faut voir un peu dans le cadre de vie de la personne tout ce qui peut être à l'origine d'une chute, que ce soit des marches d'escalier mal placées, que ce soit une baignoire un peu trop haute, que ce soit l'absence de système de préhension au niveau des salles de bain ou bien des escaliers, qui peuvent être à l'origine de chutes chez les personnes ménopausées ou les personnes âgées. Et donc, il faut faire très attention.
Donc, il y a une nécessité de réaménager son environnement, son habitat quand même.
Oui, c'est très conseillé de vérifier tout ce qui peut être à l'origine potentiellement d'un accident domestique. Dans la salle de bain, c'est l'endroit le plus fréquemment où se souviennent justement ces chutes avec les fractures, donc le carrelage de la salle de bain, le fait d'avoir des flaques d'eau qui traînent. Il faudrait quand même revoir le cadre de vie pour éviter ces fractures accidentelles.
J'ai, disons, quelques questions arrivées via Facebook de nos auditrices. Docteur Diop, Kika, en RDC, qui nous dit « Je ne suis pas encore à l'âge de la ménopause, mais c'est le cas de certaines de mes sœurs, de mes tantes. Comment expliquer les bouffées de chaleur ?» Elles reviennent souvent, évidemment, lors de la ménopause. « Que faire pour permettre à la femme ménopausée de s'épanouir sur le plan sexuel ?»
Oui, ces bouffées de chaleur, c'est franchement, je pense que c'est le symptôme le plus fréquemment décrit lors de la ménopause, de la préménopause, lié à la chute des hormones du corps. Il y a le cerveau qui balance beaucoup d'hormones pour inciter les ovaires à travailler, alors que les ovaires ne sécrètent plus d'hormones. Et c'est cette différence entre une augmentation de la sécrétion de FSH et une diminution de la sécrétion d'œstrogène qui donne justement ces fameuses bouffées de chaleur. Très dérangeantes. Il y a des moyens comportementaux pour éviter ces bouffées de chaleur. Il faut boire beaucoup d'eau déjà. Il faut éviter une alimentation trop salée, une alimentation trop sucrée, aérer évidemment son cadre de vie, mais surtout prendre contact avec son médecin qui va vous proposer une supplémentation hormonale qui va lutter, qui va bloquer ces bouffées de chaleur. Il y a des médicaments, lorsque vous les prenez, ces bouffées de chaleur vont s'arrêter ou en tout cas vont beaucoup diminuer. Donc c'est possible de lutter contre ça. Par rapport au toujours, sur le plan sexuel, l'épanouissement sexuel, ce que j'avais l'habitude de dire à mes patients en période de ménopause ou de préménopause, c'est que, bon, après avoir géré évidemment tout ce qui est sécheresse vaginale par des ovules ou par des traitements hormonaux oraux, après avoir géré les bouffées de chaleur, il faudrait que la femme ménopausée se mette dans l'esprit que c'est une nouvelle période de sa vie où elle peut vraiment s'épanouir. Elle n'a plus ses préoccupations liées à une contraception, à une grossesse indésirée, à un risque d'avortement, à des grossesses, à des accouchements. Et donc, elle peut enlever de sa tête beaucoup de préoccupations de femmes qui sont en âge de procréer et s'orienter vers une nouvelle vie, avoir une activité professionnelle, réaliser un projet professionnel qu'elle voulait, parce que c'est important aussi de se prendre en charge, d'avoir une projection dans l'avenir et ne pas penser que parce qu'on est ménopausé qu'on est arrivé au terme de sa vie. Pas du tout. Il y a une vie après la ménopause et elle peut être très belle et très longue.
Donc mieux on accepte finalement l'arrivée de cette ménopause et mieux on la vit, c'est ça ?
Exactement. C'est la ménopause est un phénomène naturel qu'il faut accepter, qu'il faut gérer, qu'il faut prendre en charge. Et la vie continue et il faut continuer à vivre sereinement sa vie. Et de se projeter dans l'avenir et de voir la vie en rose.
Et ça a l'avantage d'être un traitement naturel. Faites des projets, projetez-vous.
Exactement.
Caroline, qui est en France, qui demande combien de temps durent les bouffées de chaleur et quel régime alimentaire doit-on suivre pour arrêter de grossir ? Vous nous l'avez dit, la femme peut prendre entre 1 à 2 kilos chaque année, en période de préménopause. Comment arrêter de grossir ?
Revoir son alimentation déjà. Il y a des aliments qui sont pourvoyeurs de prise de poids, les féculents, les aliments gras, les aliments sucrés. Le sucre fait prendre beaucoup de poids. Donc il faut diminuer le sucre, il faut diminuer le sel. Pour les bouffées de chaleur, c'est diminuer le sel. Pour le poids, c'est surtout diminuer le sucre, avoir une alimentation moins hypercalorique. Il faut se dépenser, il faut faire du sport, faire une activité physique régulière. Et si vraiment on a du mal à gérer cette prise de poids, ne pas hésiter à aller voir un médecin, un professionnel de la santé.
Marie, en RDC, qui pose une question que peut-être d'autres n'ont pas osé poser. J'ai plus de 40 ans et je veux retarder l'arrivée de la ménopause. Comment faire ? Et moi, j'ajouterais, mais est-ce que c'est possible ?
Justement, j'allais répondre comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. C'est génétique, c'est programmé. On est programmé pour avoir sa ménopause. On ne peut pas savoir quand. 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il y en a même qui vont jusqu'à 60 ans et continuent à avoir leurs règles. Il n'y a absolument rien à faire.
Par contre, peut-être qu'on peut suggérer ceci. Vous me direz ce que vous en pensez. Certaines études tendent à démontrer que lorsque les femmes n'ont plus d'activité sexuelle, eh bien, le corps, hein, très intelligent, quelque part, laisse tomber cette fonction ovarienne. Et donc, ça pourrait avancer l'arrivée de la ménopause.
Je ne suis pas très d'accord avec cette...
qu'il y a des discussions sur, sur cette vision des choses.
C'est une vision des choses. Bon, la science est large, hein. La science est très large et personne n'a le monopole de la science universelle. Personnellement, en tout cas, de par mon expérience, je n'ai pas vraiment vu ça, qu'une accélération sur la ménopause liée à un manque d'activité sexuelle.
Bon, nous voilà rassurés. Hélène, qui est à Dakar, enfin, je vais avoir 40 ans. J'ai eu mes premières règles tôt, car j'avais 10 ans. Est-ce que le fait d'avoir ces règles jeunes signifie qu'on va également être ménopausé tôt? Est-ce qu'une consultation gynécologique peut déterminer le temps qui nous reste avant ce qu'elle appelle, écoutez bien, le grand tournant?
Même chose, même réponse. Non, c'est pas parce qu'on a une puberté précoce qu'on va avoir une ménopause tardive. La seule chose à souligner, par contre, dans le cas de puberté précoce, c'est que lorsque cette puberté précoce aboutit à une ménopause tardive, là, ça devient un facteur de risque de certaines pathologies gynécologiques. Donc, voir ces règles très tôt et continuer à les voir très tard, là, oui, l'imprégnation hormonale vraiment très longue peut avoir un impact sur le sein, peut avoir un impact sur certains organes tels que l'endomètre et est à l'origine de certaines pathologies.
Lesquelles, par exemple?
Les cancers gynécologiques, on évite de l'évoquer pour faire peur aux gens. Mais si on a une puberté précoce et une ménopause tardive, c'est un facteur de risque de survenir du cancer du sein.
Ce qui peut amener à une surveillance plus rapprochée.
Exactement. Donc à partir de l'âge de 45 ans, 50 ans, cette fameuse mammographie conseillée aux femmes au mois d'octobre rose et la palpation mensuelle, voire journalière des seins, sera préconisée, ou en tout cas sera proposée à toutes les femmes qui ont eu une puberté précoce. Et on va continuer à surveiller les seins jusqu'à la survenue de cette ménopause, même si elle vient tardivement.
Parmi les traitements, vous l'avez abordé tout à l'heure, le traitement hormonal substitutif de la ménopause, il est le plus répandu?
C'est le plus répandu. Ça change beaucoup depuis quelques années. Il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont sorties récemment. Ces traitements ont été incriminés dans la survenue de certains cancers gynécologiques, notamment certains cancers du sein, certains cancers de l'endomètre. Mais il faut savoir que le cancer du sein est d'abord un cancer génétique et un cancer héréditaire. Et donc, il faudrait avoir d'abord des prédispositions génétiques ou des prédispositions héréditaires à avoir un cancer du sein. Si votre maman en a eu, si votre tante, votre sœur, etc. en a eu, là, vous avez des prédispositions génétiques. Il a été identifié des gènes qui seraient responsables de la survenue du cancer du sein. Et donc, si on a déjà ces antécédents familiaux de cancer du sein, là, le traitement hormonal substitutif ne sera pas indiqué. Ou lorsqu'il est indiqué, il sera indiqué, mais avec une surveillance très rapprochée du sein, de l'endomètre, de l'ovaire. Mais ce sont des traitements qui, si on n'a pas vraiment des antécédents de cancer de la famille, peuvent être très intéressants pour lutter contre tous les signes climatériques liés à la ménopause et à la préménopause.
Où en est la recherche sur les nouveaux traitements, les traitements alternatifs qu'on peut proposer aux femmes?
Il y a des traitements alternatifs, oui. Même par rapport à ces traitements hormonaux substitutifs-là, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont sorties, beaucoup moins dosées, avec une diminution du risque justement de survenue d'un cancer gynécologique. Il y a la phytothérapie qui fait vraiment beaucoup qui a fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de molécules liées aux plantes.
On entend vous en parler avec un certain enthousiasme.
Oui, moi je préfère. J'ai une prédilection pour cette phytothérapie.
Oui, je l'ai entendu à deux reprises.
Voilà, j'en prescris beaucoup et il y a beaucoup moins de risques parce que dans nos contrées ici, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs antécédents gynécologiques de leurs parents. Donc on peut avoir une maman, une grand-mère, une tante qui a eu un cancer du sein alors qu'on n'est pas au courant parce que le cancer est encore considéré comme une pathologie honteuse et qui est cachée. Et donc on peut ne pas savoir que sa tante, sa grand-mère a eu un cancer du sein à un moment. Et donc on n'a pas toutes ces informations. Alors qu'avec le traitement hormonal, avec la phytothérapie, il n'y a justement pas une augmentation statistique de ce risque de survenir de cancer. Donc moi personnellement, j'aime bien prescrire chez les patientes en période de ménopause, pré-ménopause, cette phytothérapie et nous avons d'assez bons résultats.
Aïssata est avec nous. Elle nous rejoint dans cette discussion depuis Nouakchott. Bonjour Aïssata.
Bonjour.
Bienvenue dans Questions de femmes. Le docteur Diop nous accompagne et nous apporte son éclairage précieux sur ce sujet, la ménopause. Vous appelez non pas pour vous, mais pour votre mère.
J'appelle pour ma maman. Elle a la soixantaine passée.
Oui.
Ces temps-ci, elle ne se sentait pas bien. On lui a fait faire toutes les analyses, mais c'est sorti que tout allait bien. Mais elle, elle se plaint tout le temps de douleurs. Étant donné qu'elle a des antécédents médicaux, elle se plaint des douleurs, comme quoi elle ne dort pas trop bien la nuit. Elle se plaint de beaucoup de douleurs. Et on lui a fait faire beaucoup d'analyses. On nous dit toujours qu'il n'y a rien, qu'on n'a rien vu, que tout est normal. Tout récemment, on lui a dit que c'était la ménopause, que c'était normal qu'elle souffrait de ces douleurs. Donc, je voulais savoir, est-ce normal qu'elle souffre de cette manière?
Docteur Diop.
La maman d'Aïssata est ménopausée, ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Elle a même des symptômes liés à cette ménopause, les bouffées de chaleur, les douleurs peut-être liées à cette ostéoporose qui est peut-être à l'origine de douleurs. Mais j'ai cru comprendre aussi que sa maman avait des antécédents médicaux, notamment une hypertension artérielle et un diabète.
Diabète, tout
donc,
à
je
fait.
Je pense qu'il faudrait aussi explorer dans ce sens-là pour voir est-ce que son diabète est équilibré, voir son hypertension artérielle, où est-ce qu'elle en est, qui peut aussi être à l'origine de certains symptômes qu'elle évoque. Les douleurs, l'ostéoporose, les bouffées de chaleur, c'est la ménopause, ça c'est vrai, mais il faudrait explorer plutôt le côté cardiaque et explorer le côté diabète pour voir quel est le problème. Et enfin, lui proposer des solutions pour les douleurs. Il n'y a aucune raison qu'elle souffre, parce qu'elle ait des douleurs diffuses. Il y a des médicaments antidouleurs, antalgiques très puissants, très intéressants, qu'on peut lui proposer pour qu'elle ait quand même une bonne hygiène ou une bonne qualité de vie et qu'elle n'ait pas de douleur.
Il faut que la douleur soit prise en charge, bien sûr.
Exactement. Vraiment côté médecine interne, voir quel est le problème et arrêter de se focaliser sur cette ménopause qui est consommée et qui est là.
Merci Aïssata et meilleure santé à Merci votre maman. À Merci. On écoute tout de suite Ismaëlo, toutes les femmes sont des reines. C'est le choix de Tony à Dakar au Sénégal qui a participé à cette émission tout à l'heure.
Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi, maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi.
Merci à Tony de nous avoir proposé Ismaëlo. Toutes les femmes sont des reines. Docteur Diop, merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette émission Questions de femmes et sur ce sujet qui préoccupe tellement les femmes. On le sait, la ménopause. Docteur Diop, je voudrais vous suggérer une citation de une phrase de cette gynécologue obstétricienne américano-canadienne et qui est aussi une militante féministe. Il s'agit de Jane Gunter. Elle dit « La ménopause n'est pas un prélude à la mort, mais une étape de la vie, une réaction ».
Exactement, j'ai lu son livre qu'elle a écrit récemment, je pense, où elle parlait de ça.
Eh oui.
Et je pense qu'elle a en tant que femme, en tant que gynécologue, elle a une très belle approche de cette ménopause. Et c'est un peu, moi, ce que je dis à mes patients. La ménopause n'est pas une fatalité, c'est une étape de la vie qu'il faut traverser sereinement. Et surtout qu'il y a une vie après la ménopause et une très belle vie après la ménopause.
Et merci de le rappeler. Merci docteur Diop. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue de Dakar. Merci aux équipes techniques du studio RFI à Dakar sous la supervision d'Alassane Bereba. Merci à l'équipe de Priorité Santé, Ophélie Lassène, Assetous Samake, Tiffany Menta et Cyprien Flo. C'était Céline Guillaume. Prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.